Bonjour et bienvenue, c'est Service Public. Avant, on faisait grève, et plus la grève était longue, plus on avait de chances de se faire entendre. Aujourd'hui, on manifeste, le samedi, ou en posant une RTT, et plus le nombre de manifestants est élevé, plus on a de chances de se faire entendre. On pourrait presque plagier un jeu télévisé en réclamant « le million, le million, le million ». Avant, pour manifester, il fallait être soit de la fonction publique, le must étant cheminot, soit jeune et donc idiot, et de toute façon de gauche. En octobre dernier, sur les 71% qui soutenaient le mouvement, il y avait forcément des vieux, des salariés du privé et des électeurs de droite. La lutte, ou plutôt les luttes, continuent, les lignes bougent, reste à savoir comment, quelle forme peuvent prendre les luttes d'aujourd'hui. C'est la question qu'on se pose ce matin dans Service Public. Et nous ne serons pas un million pour en parler, mais cinq ce matin, honneur au Benjamin, Victor Colombani, bonjour.
Bonjour.
Vous avez participé au mouvement contre la réforme des retraites, vous avez 16 ans, vous avez fait votre première manif à 8 ans, si j'ai bien lu, et vous êtes maintenant président de l'UNL, l'un des syndicats étudiants. En face de vous, un confrère, si on peut dire ça comme ça, Éric Aubin, bonjour, vous êtes bonjour. À la CGT en charge justement du dossier des retraites. Christophe Aguiton est là également, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur et surtout militant, vous avez notamment créé Agir contre le chômage. Et puis au téléphone, nous avons Lilian Mathieu. Bonjour, vous êtes là ?
Bonjour, je suis bien là.
Bon, bah tout va bien. Alors bonjour, vous êtes sociologue et vous travaillez notamment sur ce thème de la contestation. Et d'ailleurs, tous les deux, Lilian Mathieu et Christophe Aguiton, vous avez participé à la rédaction d'un petit livre paru au Seuil qui s'appelle paru au Seuil qui s'appelle Tous dans la rue, le mouvement social de l'automne 2010. Alors, cet automne 2010, justement, est-ce qu'il a changé pour vous quelque chose dans la façon de lutter aujourd'hui ? Alors, Lilian Mathieu, puisque
D'accord,
vous êtes avec nous, on vous écoute.
Sur la forme, je dirais que la mobilisation, elle a emprunté des chemins assez classiques depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, c'est-à-dire depuis, en gros, le mouvement contre le plan Juppé de décembre 1995, c'est-à-dire des journées plus ou moins rapprochées, mais des journées massives de mobilisation qui, à la fois, font appel à la grève et surtout qui prennent la forme de grandes manifestations dans les grandes villes, surtout le territoire français. Donc c'est une forme qu'on a vue se répéter donc à partir de 95, en 2003 contre la réforme déjà des retraites du gouvernement Fillon, en 2006 contre le CPE. On a vu également en début de l'année dernière, c'est-à-dire début 2009, plusieurs journées d'action à l'appel des syndicats. Alors là, avec la question de l'espacement dans le temps de ces journées de mobilisation. Donc, je dirais que c'est une forme qui, maintenant, est très classique et qui est bien connue et maîtrisée des gens qui entendent faire entendre leur voix. Après, il y a des nuances, effectivement, c'est-à-dire que autant en 95, c'était, et en 2003, c'était davantage la fonction publique qui était au premier plan. Là, on a vu davantage réémerger la figure des salariés du privé, en part beaucoup plus conséquente dans les cortèges et également dans les grèves qui les ont accompagnés.
Mais ça veut dire, je précise au passage que le livre que je viens de citer, Tous dans la rue, n'est pas encore en vente en librairie, il le sera à partir du 6 janvier. Ça veut dire, Christophe Aguiton, puisque vous venez de prendre la parole, qu'aujourd'hui, on change quand même un peu de forme. On est passé de grève, de journées de grève à répétition, à des journées de manifestation de masse.
C'est sûr que si on prend du temps long et si on essaie de voir ce qui se passait auparavant, les formes de l'action collective étaient un peu différentes. Au 19e siècle, c'était surtout les insurrections, les grandes révolutions qui ont marqué l'histoire de notre pays. Et le 20e siècle, c'est beaucoup les grèves, et en particulier les grèves générales, qui sont une spécificité française, mais qui nous ont marqué tous. Vous prenez juin 36 ou mai 68, nous sommes les héritiers d'une certaine façon.
Oui, qui n'existe plus depuis un moment.
Voilà, qui n'existe plus,
95,
en tout cas avec cette intensité-là. Alors, les manifestations existaient également. En mai 68, il y a eu des manifestations d'ailleurs des deux côtés, puisque les gaullistes avaient organisé une manifestation pour marquer d'une certaine façon le retour à l'ordre et à la stabilité républicaine, entre guillemets. Mais les manifestations n'étaient qu'un accompagnement des grèves. Là, on a l'impression qu'il y a une espèce d'inversion, disons, de l'ordre d'importance des formes d'action. Et que ce qui a pesé le plus, en tout cas, c'était évident pour ces manifestations-là, celle de septembre 2010, c'était en effet le nombre de manifestants. Et j'étais très amusé de vous entendre tout à l'heure commencer par le million.
Jupéton, hein,
parce que ça, c'était le Jupiton. Mmh. En 95, on a été assez surpris. Parce qu'au début, tout s'est engagé, comme mai 68, d'une certaine façon, par une grève, d'abord de services publics, qui ont commencé à paralyser le pays. C'était les cheminots, la RATP, la Poste avec les centres de tri. Bref, une espèce de paralysie qui commençait à s'installer. Les gens marchaient beaucoup à pied. On se rappelle de cet hiver froid où on a beaucoup, beaucoup déambulé dans les villes de France et en particulier en région parisienne. Mais l'idée de la manifestation et du million de manifestants, hein, qui devait être, et c'est parce que c'était la formule qu'avait employé Alain Juppé à l'époque, le signal disons, du basculement. Et voilà, donc
il avait dit à partir du moment où il y aura un million de personnes dans les rues, voilà, on commencera à s'intéresser à la question.
Et un petit journal qui a disparu maintenant, qui s'appelait Info Matin, qui est un petit journal, avait lancé cette formule du Juppéton, qui était donc l'idée qu'il fallait atteindre 2 millions, et donc de manifestation en manifestation, on montait. Et ce qui était intéressant de voir, et je vais finir là-dessus, sur cette séquence-là, celle de septembre 2010, c'est que le nombre de manifestants est plus important. C'est-à-dire que le million a été atteint tout le temps, et en général, c'était pas le million, mais c'était 2-3 millions, ce qui était chiffre absolument considérable, qui montre qu'il y a une espèce d'augmentation de la participation collective dans cette forme particulière qu'elles sont les manifestations de rue.
Mais la forme de la contestation, elle prend forcément celle de la manifestation ou bien de la grève, ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités?
Moi, ce que je pense, c'est que dans chaque mouvement social, il y a besoin de ce qu'on appelle un index, c'est-à-dire quelque chose qui permet de juger de la croissance d'un mouvement. Ça a été les grèves dans beaucoup de cas. Dans le mouvement des chômeurs de 97, c'est le nombre d'assédics occupés. Dans d'autres cas, ça a été le nombre d'occupations d'usines, je pense à juin 36. Là, depuis plusieurs années, c'est le nombre de manifestants qui est en général le curseur, disons, l'index qui est choisi par tous les partenaires.
Éric Aubin, vous avez levé le doigt comme à l'école.
Oui, bien sûr. Oui, tout d'abord, il y a deux caractéristiques à ce mouvement. L'aspect effectivement massif. On a commencé le 23 mars la première mobilisation avec 800 000 manifestants pour monter jusqu'à 3,5 millions au mois d'octobre. Donc on a eu cet effet masse effectivement qui a monté tout au fur et à mesure des manifestations, et l'aspect unitaire quand même, où nous étions 5 organisations syndicales à appeler au début du mouvement et nous étions 8 en fin de mouvement, ce qui montre que finalement c'est une caractéristique très forte dans ce mouvement. Alors pour ce qui concerne la CGT, nous on avait choisi dans cette mobilisation de demander aux salariés de décider eux-mêmes des formes d'action qu'ils entendaient mener dans ce conflit. Et c'est ce qui fait qu'on a eu effectivement...
Mais les formes d'action, pardon, c'est quoi donc?
Ça les peut formes être le blocage, c'est divers, par exemple, divers c'est... et variés. Il y a eu des blocages, il y a eu des reconductibilités d'action, il y a eu des débrayages, il y a eu des pétitions, il y a eu toutes formes d'action, ce qui nous a permis de gagner dans nombre de secteurs et nombre d'entreprises des avancées significatives en termes d'augmentation de salaire, en termes de négociation sur la pénibilité, c'est le cas de Lafarge, un groupe très connu, des emplois aussi qui ont été gagnés dans la période, bien que le point central était la réforme des retraite.
Victor Colombani, donc de l'UNEL, président de l'Union nationale lycéenne.
Dans les lycées, sur les formes d'action, on a constaté en quelques années une certaine évolution, même si elle est quand même pas énorme dans le paysage social. On le voit, il y a 5 ans, 6 ans, même pendant le CPE, il y avait surtout des occupations de lycées. Maintenant, on se retrouve avec des blocages, des actions devant les lycées, etc. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'a profondément marqué dans cette mobilisation et qu'on a vu, qu'on voit cette évolution depuis plusieurs années, une dizaine d'années, c'est le phénomène de masse. On en a tous parlé. Le phénomène de masse qui fait que, alors c'était logique pour la réforme des retraites, c'est quelque chose qui concernait toute la société entière est descendue dans la rue, mais on l'a également constaté plus tôt, pendant le CPE par exemple. C'était à la base un mouvement où il y avait uniquement des jeunes qui allaient bientôt rentrer sur le marché du travail et qui allaient être touchés par le contrat première embauche que proposait Dominique de Villepin. Toute la société s'est mise à défiler. Il y a une sorte de solidarité intergénérationnelle qui se construit petit à petit, et pas uniquement sur la simple question du mouvement contre la réforme des retraites, qui se construit petit à petit dans la société, un peu comme si on devait tous se serrer les coudes, notamment depuis la crise, depuis les plans de rigueur qu'on a pu voir. Alors ça n'a pas donné grand-chose, on a, c'est vrai, en face un gouvernement qui est très austère, mais en même temps, il y a des victoires qui vont derrière, qui peuvent tout à fait arriver. Il y a quelque chose qui reste réellement ancré dans les esprits, qu'on soit dans la rue ou non. À l'heure actuelle, quand je parle avec des lycéens, et je suis persuadé que pour les salariés, c'est la même chose, quand on parle avec eux, il y a quelque chose qui est resté de ce mouvement sur la réforme des retraites. Il y a quelque chose qui reste des années de Nicolas Sarkozy, de politique libérale qu'on peut avoir en France et qui peut amener des victoires derrière.
D'accord. Manifestation, grève ou même blocage, la lutte est-elle encore utile aujourd'hui? Un téléphone pour apporter votre point de vue, c'est le 01 45 24 7000, 10h15 sur France Inter, Brune, un cheveu blanc.
J'ai un cheveu blanc sur moi et je m'effondre. Il y en a 1, 2, 4. J'ai un cheveu blanc sur moi. Je m'effraie. Je vais danser dans une boîte et je m'efface devant toutes ces filles si jeunes et si belles. J'ai un cheveu. je les ferme. Je me sens un peu vieille, j'ai un trait au coin des lèvres et je me tais. Je prends le chemin de l'école, mais c'est pas moi. Assise sur le banc, il y a des traits au coin des yeux et je défaille. Si je prenais la vie, si je prenais le temps de ne plus compter les années, tous les ans, tous les jours, si j'arrêtais les comptes. Très au coin des yeux, il y a des larmes. Moi, je prendrai la vie, moi, je prendrai le temps de ne plus compter les années, tous les ans, tous les jours. J'ai arrêté les comptes. Moi, j'apprends la vie, moi, j'apprends l'amour.
Éric Aubin de la CGT, Lilian Mathieu, sociologue, Christophe Aguiton, militant et enseignant à la Sorbonne, Victor Colombani, lycéen et président de l'UNL, l'un des syndicats lycéens, sont les invités ce matin de Service Public. Alors il y a quelques mails qui nous arrivent sur franceinter.com. Celui de Martial, j'espère qu'on va pouvoir lui redonner le moral parce que ça n'a pas l'air au mieux. Je regarde les thèmes, les luttes, je n'écouterai pas. Oui, je suis un de ceux qui ont fait toutes les manifs pour les retraites, mais désormais, j'ai accepté la défaite. La résistance est un mythe. Vous êtes d'accord avec ce que dit Martial? D'abord, on vient de l'évoquer un petit peu. Finalement, ces manifestations ne sont pas tout à fait une défaite. Le projet de loi est passé, certes, mais il y a quand même eu du monde dans la rue. Il s'est passé quelque chose.
Il y a eu beaucoup de monde dans la rue. Il est clair cependant qu'on n'est pas dans la même situation qu'en 95, par exemple, ou de la grève et des mobilisations pour le CPE, qui c'était toutes les deux, ces deux grandes mobilisations, sanctionnées par des victoires absolues, puisque les gouvernements avaient retiré leur projet de loi. Là, c'est pas le cas. Le projet de loi est passé. Il a été légèrement modifié.
Enfin, le CPE avait quand même moins d'envergure pour un gouvernement que
une réforme des retraites. C'est quelque chose qui mérite discussion et je serais heureux de voir ce que Éric ou Victor ont comme opinion sur ce sujet. C'est que pour beaucoup de Français, il y avait quand même l'idée qu'il serait difficile de gagner. Hein, parce qu'en effet, face à nous, il y avait les marchés financiers, il y avait une droite qui, sur ce sujet-là, était très unie, hein, à la différence du CPE, par exemple. Mais que le plus important était de marquer le coup et de montrer aux dirigeants de ce pays, comme, disons, sur le plan international, aux institutions internationales, que le peuple français ne laisserait pas s'instaurer toute une série de mesures néolibérales. Et de ce point de vue, on peut considérer qu'il y a une victoire qui a été obtenue.
On peut poser en effet la question à Éric Aubin. Finalement, la CGT s'est pas engagée dans ce combat en pensant sincèrement pouvoir faire retirer le projet de réforme du système des retraites.
Oui, nous pensions quand même que nous pourrions gagner sur cette réforme des retraites parce que d'abord, il y avait la masse, la durée, l'unité syndicale, il y avait tous les ingrédients pour obtenir une vraie victoire. Cependant, le sentiment que l'on a analysé, nous, des militants à la CGT, c'est plutôt un sentiment de fierté d'avoir mené cette bataille, d'avoir gagné cette mobilisation et finalement d'avoir pesé sur le climat social et d'avoir l'impression d'être rentré dans l'histoire quand même sociale de notre pays. Et je crois que la syndicalisation, hein, que l'on constate dans la dernière période, et y compris une opinion publique qui est toujours favorable finalement au mouvement, un sondage montrait que finalement 57% des Français étaient satisfaits de l'action des organisations syndicales. Oui, donc ça montre bien qu'il n'y a peut-être pas la victoire totale au bout, puisqu'on n'a pas pu faire reculer sur le recul de l'âge légal de départ en retraite. Néanmoins, on a montré qu'on était capable de mobiliser dans la durée, massivement et dans l'unité.
Vous pouvez nous l'avouer maintenant que les choses sont passées. L'intersyndicale dont vous parliez tout à l'heure, 5 au début puis 8 syndicats à la fin, n'a jamais souhaité vraiment n'a jamais engagé son action sur le retrait total du projet de loi.
Non,
là,
mais...
ça aurait été suicidaire, ça n'aurait pas fonctionné. Ce que vous vouliez, c'était montrer finalement que cette réforme était peut-être illégitime, c'est plus ça l'idée.
Non, mais tout simplement, on a considéré que cette réforme, elle était injuste et inefficace. Elle renforçait les inégalités entre salariés et donc il fallait la combattre.
Et là, cependant, en effet, le message est passé. Donc vous considérez que c'est une victoire.
Mais nous avons toujours dit qu'il fallait une réforme, et effectivement, pas celle qui nous est aujourd'hui proposée, mais néanmoins, pour nous, la bataille n'est pas terminée. On a encore des combats dans les entreprises qui se mènent sur des sujets qui ont aussi été portés dans ce mouvement, notamment sur les questions de salaire, conditions de travail, de pénibilité, d'emploi. Toutes ces questions restent entières et font l'objet de mobilisations encore aujourd'hui dans les entreprises.
Lilian Mathieu, sociologue, est au téléphone avec nous.
Oui, je voulais intervenir sur ce thème-là. Effectivement, le gouvernement a gagné au sens où il a pu imposer sa réforme, mais je dirais qu'il a perdu au niveau idéologique. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de casse dans le fait de passer sur le mode bulldozer. On l'a vu dans l'accélération du processus législatif, dans la manière dont le calendrier au Parlement a été accéléré pour, de toute évidence, faire passer en toute urgence une réforme qui n'a en aucun cas convaincu la majorité de la population. Par contre, ce qui est apparu très nettement et à l'actif du mouvement, c'est la légitimité des formes de mobilisation. C'est-à-dire que la résignation n'est absolument pas de mise face aux mesures gouvernementales.
Il n'y a pas de fatalité, vous voulez dire.
Voilà, il y a un effet de défatalisation d'un certain nombre de réformes qui pouvaient s'appuyer, alors y compris tout le discours sur l'allongement de l'espérance de vie. Le gouvernement avait tout un argumentaire assez efficace dans un premier temps pour légitimer sa réforme. La manière dont il s'y est pris, dont il l'a fait passer absolument en force, et son incapacité à répondre à certaines des critiques qui étaient portées par le mouvement montre de toute évidence que il ne peut pas se targuer d'une victoire complète.
Victor Colombani, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Pour revenir à la question qui a été posée tout à l'heure, je ne pense pas que les organisations syndicales, en tout cas les syndicats lycéens non plus, auraient fait sortir des dizaines de milliers de lycéens, des millions de salariés pour perdre beaucoup de salaires, pour perdre beaucoup de temps, pour perdre peut-être dans leur diplôme pour les lycéens, alors qu'ils pensaient qu'il n'y aurait pas de victoire derrière. Là-dessus, encore une fois, il y a certaines victoires qui sont arrivées chez les jeunes. On a eu des avancées par le gouvernement, par les organisations syndicales, de possibilités de négociation sur l'emploi des jeunes, un thème qui a aussi été porté pendant la
réforme des retraites. C'était juste pour savoir si le but recherché finalement, c'était pas l'abrogation totale de ce projet de loi, ou plutôt rendre illégitime soit la politique du gouvernement, enfin, qui a un but inavoué, caché dans ce mouvement d'ampleur.
Je pense que ça allait de pair. De toute façon, si le gouvernement avait reculé sur sa réforme, il aurait été d'autant plus illégitime. Maintenant, une fois de plus, ce qui restait dans la tête des lycéens, ce qui restait dans la tête de l'ensemble de la société, c'est que maintenant, s'il faut le refaire, et je pense qu'il faudra le refaire un jour, parce qu'au vu de ce qui se passe actuellement en France, il y a réellement des gros problèmes sociétaux qui sont posés par toutes les réformes qui sont proposées à l'heure actuelle, par une casse programmée des services publics, notamment dans le domaine de l'éducation, et ça les lycéens, la fonction publique le ressent particulièrement. S'il faut le refaire, on peut le refaire. Et ça, je ne suis pas sûr que l'ensemble de la société l'avait en tête, et maintenant il y a quelque chose qui est réellement venu.
Ce mail qui nous arrive de Massat dans l'Ariège, c'est Muriel qui nous écrit, qui nous dit « J'ai 60 ans et bien qu'ayant pris ma retraite, nous avons tenu mon mari et moi à participer aux manifestations et au fur et à mesure, nous avons pu remarquer l'élargissement des catégories qui étaient présentes. Il y avait de plus en plus de jeunes, ce que vous venez de nous expliquer, Victor Colombani, et aussi des familles, des couples avec des enfants, ce qui démontre le ras-le-bol général, beaucoup de Français. Il faut s'indigner et lutter, étant écrit en caractère gras. Il y a ce qu'on appelle la grève d'opinion, ce sont les grèves auxquelles l'opinion publique adhère. Alors il y a des OU, il y a eu l'usine LU, évidemment la réforme des retraites. Sans le soutien de l'opinion publique, ça ne fonctionne pas.
Je pense Christophe Aguiton. Le soutien de l'opinion publique est très important et c'est quelque chose de relativement nouveau. Il y a eu des grands mouvements sociaux qui ont été très populaires, mais ils étaient souvent populaires après. Prenez 68, qui a été vécu par beaucoup de salariés comme une grande victoire sur des tas de plans. Au tout début, hein, en juin 68, ça a amené à une chambre bleu horizon. C'est-à-dire que la majorité du peuple français avait, pour certaines façons, eu peur juste sur les événements de 68, même si après, la gauche l'a emporté, il y a eu toute une série d'évolutions sociales très importantes. Mais ce qui est nouveau dans les 20 dernières années, c'est qu'on a des mouvements sociaux qui sont tous très populaires.
Et mais comment
recueille le
pardon, par les sondages d'opinion. Tous les mouvements sociaux sont aujourd'hui accompagnés.
Oui, non, mais ça j'entends. Évidemment, pratiquement, je vois comment on peut recueillir. Mais comment on peut faire en sorte que l'opinion publique adhère au mouvement?
Je pense que ce qui se passe, évidemment, quand on a des mouvements comme ceux-là, qui sont des mouvements dignes, qui sont des mouvements de masse, qui sont des mouvements qui, d'une certaine façon, montrent une capacité d'élargissement permanent, hein, bon, on a à chaque fois un soutien de l'opinion publique. Depuis maintenant 93 et surtout 95, on voit qu'on a un soutien. Et ce qui est frappant, c'est que de mouvement en mouvement, ce soutien augmente. Nous avons été tous très surpris en 95, alors pourtant que la grève paralysait le pays et que les gens marchaient des heures pour se rendre à leur travail, pour ceux qui travaillaient, de voir que malgré ça, on avait 50% d'opinion favorable au mouvement. En 2010, c'est pas 50%, hein, c'est 60, 65.
Donc enfin, début, hein, sur la fin, on était à moins.
On a toujours eu quand même plus de 55-60%, hein, à toutes les manifestations et à tous les grands jours de mobilisation de ce mouvement, ce qui est plus que dans les mouvements précédents.
Éric Aubin de la CGT?
Oui, on est même monté jusqu'à 74% de soutien à certains moments.
Descendu aussi à 48, il me semble. Hein.
Non, mais ce que l'on a gagné, c'est surtout, me semble-t-il, c'est surtout l'ancrage, moi, dans les entreprises, dans les écoles, dans les facs. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça s'est traduit, ça a été gagné par un travail énorme de terrain, par les militants qui ont effectivement fait des formations, qui ont fait passer de l'information et qui ont mis en avant l'injustice que portait cette réforme. Je crois que tout le monde a compris aujourd'hui qu'on demandait des sacrifices de plus en plus importants aux salariés et que de l'autre côté, les actionnaires sont toujours de plus en plus exigeants sur le niveau de dividendes à leur verser. Je crois que cette démesure aujourd'hui, elle est ancrée dans la tête des salariés et je crois qu'elle est inscrite pour un certain temps dans le paysage.
Mais des manifestations de cette ampleur, est-ce que ça entraîne forcément un nombre qui augmente de syndiqués, de taux de syndicalisation chez vous? Est-ce que la CGT, à la suite de ces manifestations, il y a plus de gens qui ont adhéré?
Nous sommes plusieurs syndicats à dire qu'effectivement il y a un regain de syndicalisation. Alors pour nous, il n'est pas encore à la hauteur de ce qu'il devrait être, mais je crois que c'est surtout pour l'instant des salariés qui sont venus au devant de la CGT pour se syndiquer. Maintenant, nous avons un travail nous à faire pour aller devant des salariés pour leur proposer l'adhésion. Je crois qu'ils ont mesuré l'intérêt aujourd'hui d'adhérer à une organisation syndicale, de faire en sorte que les syndicats ensemble puissent effectivement construire ces mobilisations pour gagner des acquis sociaux, ce qui n'a pas été le cas là, mais néanmoins, encore une fois, on a obtenu des choses dans les entreprises qui n'est pas négligeable.
Je voudrais qu'on réponde à Françoise qui nous écrit de Paris et qui dit 2 à 4 millions de manifestants, c'est quand même bien loin de représenter la majorité des Français. On parle de 61% de sondages d'opinion favorable, mais c'est vrai que finalement dans la rue, regard de ce nombre d'opinions favorables, il n'y avait pas beaucoup de monde.
Oui, mais ce qu'il faut mesurer quand même, c'est que, y compris si la CGT, à un moment donné de la mobilisation, a accepté d'organiser une mobilisation le samedi, c'est parce que nous sommes dans une situation où nous avons eu des salariés qui ont manifesté en semaine, d'autres salariés qui ont manifesté le samedi, et je pense, moi, qu'on était plus près des 5 à 6 millions de salariés qui ont participé à ces mobilisations. Par différentes formes, mais qui ont véritablement participé à cette mobilisation. Il faut se rappeler qu'en 95, dont on parlait tout à l'heure, moi j'ai été rechercher les écrits de la CGT à l'époque, où on parlait de mobilisation historique. Nous avions 1 500 000 salariés.
Ça, c'est la guerre des mots à laquelle jouent tous les syndicats.
Comme quoi, nous avons plus que multiplié par deux la mobilisation.
À chaque
95.
Fois, ça devient historique.
Donc, non, mais je crois que, alors l'histoire, on verra, c'est dans le temps qu'on mesure si c'est historique ou pas. Néanmoins, je pense que personne ne peut nier que ça a été un événement extrêmement important et que ça va laisser des traces, effectivement, comme le disait Victor. Et je crois que ça, faut le mesurer.
Alors, on parlait de, oui, sur les chiffres, Christophe
en deux mots. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ceux qui s'engagent dans l'action collective sont toujours minoritaires dans un pays. C'est vrai à tout temps et dans toute époque. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution. Et ce qui est marquant, et ça, Éric Aubin a tout à fait raison de le signaler, c'est le fait que même en 68, le maximum des manifestants était de 1 million. Même en 68, les gens bloquaient le pays, il y avait une paralysie générale, mais 1 million. Et la droite n'a pu mobiliser en 68 également que 1 million de personnes. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que les chiffres montent. C'est ça qui est nouveau. Et 3 millions, ou entre 2 et 4, peu importe le détail des chiffres, c'est beaucoup plus que ce qui n'a jamais été fait.
On a Arnaud au téléphone. Arnaud, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous vouliez intervenir?
Oui, tout à fait. Là, on parle des conflits sociaux à grande portée, à grands enjeux de société, mais je pensais aux mouvements liés à des plus petits enjeux. J'en veux pour exemple une grève qui avait lieu sur le RERA, par les conducteurs du RERA, il y a quelques mois, maintenant une petite année. J'aimerais savoir en quelle mesure les syndicats prennent en compte l'impact global de l'action sur le quotidien des gens, et avec le sentiment qu'aujourd'hui, ce sont surtout les populations les plus défavorisées qui sont impactées par ces mouvements, pour au final gagner quelques dizaines d'euros, faire gagner quelques dizaines d'euros à une centaine de personnes.
Alors, on va poser la question à Éric Aubin de la CGT, mais ça revient en effet à l'idée de la médiatisation et de l'adhésion de l'opinion publique, de gagner l'adhésion de l'opinion publique.
Mais je crois
publique.
Qu'il n'y a pas de petites actions et de grandes actions. Moi, je considère que toutes les actions, finalement, sont bonnes à mener. Et d'ailleurs, pour arriver à des grandes mobilisations massives, il faut bien entendu avoir de nombreuses mobilisations dans les entreprises, ce qui permet d'avoir cette mobilisation massive. Et je crois que dans ce conflit, nous, on est en train d'essayer de recenser un peu ce que les uns et les autres ont obtenu. Mais dans les verres et céramiques, par exemple, c'est 6% d'augmentation que certains ont obtenu alors que rien n'était prévu avant le conflit. Je le disais tout à l'heure, Lafarge, une négociation sur la pénibilité dans une période où on supprime la reconnaissance de la pénibilité, là où l'exige, je pense aux infirmières notamment. Ces acquis-là, ce ne sont pas des petits acquis ou des petites victoires. C'est effectivement, ça participe à l'ensemble et notamment ça va participer à ce que l'on peut construire pour l'avenir. Parce que moi, je suis d'accord avec Victor quand on dit que ce que l'on a fait en 2010, on est capable de le refaire plus tard. Les plans ne repassent jamais deux fois. Mais néanmoins, je pense qu'il y a une certaine prise de conscience des salariés qu'on ne peut pas continuer dans cette démesure, dans cette politique qui finalement met à mal tous les acquis et crée les conditions que de plus en plus de salariés vivent mal dans notre pays.
En tout cas, on rivalise d'imagination depuis ces 5 dernières années sur cette question, comment alerter les médias et donc l'opinion publique. Je pense à Génération Précaire qui s'est battue pour obtenir un statut aux stagiaires, obtenu d'ailleurs en défilant avec des masques blancs dans la rue. Je pense à Jeudi Noir qui lutte contre les logements trop chers en organisant des fêtes dans l'appartement que l'agent immobilier fait visiter, jusqu'au Yes Men qu'on fait chuter le cours de la société responsable de la catastrophe de Bhopal en se faisant passer pour des cadres de cette société et en annonçant tout bonnement qu'ils allaient indemniser toutes les victimes de la catastrophe. Et puis il y a une autre forme amusante que je voudrais vous faire entendre, c'est celle de la manif de droite. Celle que je vous propose d'écouter vient de Belgique, c'était il y a 2 mois. Ils sont une 50aine dans la rue avec des slogans qu'on ne lira nulle part ailleurs, comme « Pas d'alloc pour les dreadlocks » ou encore « Réprimer les manifestations ».
Seule solution, la privatisation. Baisse de TVA sur le foie gras. Baisse de TVA sur le foie gras.
Et 1, 2, 3 licenciements.
Le travail très clair,
c'est nécessaire.
Les diamants du Congo, c'est à nous.
Syndicalisme, futur économique.
On est plus de droite, plus de droite que vous.
Chacun pour soi. Et pas pour les autres,
chacun pour soi,
et pas pour les autres.
On veut des feux qui passent en bleu.
On veut du quick dans nos cantines.
On veut du quick dans nos cantines.
Alors c'est vrai qu'on réfléchit maintenant aussi sur la forme à donner aux manifestations. Victor, quand vous partez dans la rue avec les autres lycéens, vous posez ces questions-là ?
Bien sûr qu'on se pose ces questions-là. Il y a plusieurs formes d'ailleurs qui ressortent. Bien sûr, il y a la forme que je dirais presque majeure, celle qu'on a vue pendant le mouvement sur la réforme.
La classique, quoi.
La classique, celle qu'on voit en permanence. Mais il y a aussi, ça peut arriver, des manifs de droite. C'est vrai que c'est pas le plus répandu. C'est un principe que j'aime bien. Je trouve ça assez drôle et en même temps très combatif. Il y a des modes d'action qui peuvent avoir lieu dans les lycées, dans les établissements, des nuits des écoles, ça a eu lieu déjà. Une occupation du lycée, tout simplement discuter avec les lycéens, ceux qu'ils souhaitent, pas forcément obliger les lycéens à rester dans l'établissement, pour commencer à avoir des discussions, à faire prendre conscience à tout le monde de ce qui se passe et pouvoir débattre aussi, c'est quelque chose de très important. On peut être dans la rue, on peut être en grève, mais on peut aussi mobiliser d'une autre manière et de manière permanente. C'est-à-dire que on est syndicaliste, c'est le comité de mobilisation permanente, toujours être là pour voir, pour analyser ce qui se passe, pour débattre avec les lycéens et pour porter le message que veulent faire porter les lycéens.
Et je voudrais poser cette question à Lilian Mathieu, mais est-ce que ces nouvelles formes, certes amusantes, risquent pas de masquer le fond au profit de la forme ?
Ça, c'est... Je suis pas sûr que ce soit un grand risque, parce que précisément, il y a une tentative d'articuler les deux. Et le plus souvent, ces formes un petit peu spectaculaires, humoristiques, qui visent surtout à agir par l'écho que les médias vont donner de la lutte, plutôt que par la démonstration de la force du nombre, parviennent à... sont à même de faire émerger des revendications et de peser politiquement. Hein. Les exemples que vous avez donnés ont eu la capacité à peser, à obtenir, à engranger un certain nombre de succès. Je pense que la plupart des mouvements sociaux, ils ont une palette, un répertoire de formes d'action qui leur sont accessibles et qu'ils vont ils vont y privilégier une forme en fonction du contexte de ce qui leur paraît le plus opportun le moment venu. Donc dans des périodes où il est difficile de mobiliser beaucoup de monde, on va agir sur le spectaculaire, sur l'écho médiatique. Et lorsque le contexte apparaît davantage favorable, comme on l'a vu, mais ça s'est dessiné progressivement au cours de l'automne, lorsqu'il est davantage possible de peser par la force du nombre, par des mobilisations, somme toute, assez des manifestations, un répertoire d'action assez classique, on va privilégier cette forme-là.
On parle des luttes sociales ce matin et ces notes que vous commencez à entendre, ce sont celles de The National, Wake Up Your Sense. On est ensemble jusqu'à 11h. I had a hole in the middle where the lightning went through. I told my friends not to worry, my wife would know how to fix it. Hole in the middle, I'm seeing less of you. Now I'm not going anywhere, and I don't know what I'll do. It's easy to lose your grip. It's easy. I never tell my decisions to the ones I adore. I just show up like a Bible breather outside the door. But when I look in the window, I see girls on TV living and dying in LA, and it means nothing to me. It's easy to lose your friends. It's easy. It's easy.
I love, and I'm
qui est là ce matin, Victor Colombani du syndicat lycéen UNL, Lilian Mathieu, sociologue au téléphone, Éric Aubin de la CGT et Christophe Aguiton, chercheur et militant tout terrain. On parlait tout à l'heure de ces collectifs qui rivalisent d'imagination pour attirer l'attention, l'opinion publique. Je me demande si ces collectifs sont pas en train de prendre la place qu'occupaient les syndicats jusqu'à présent. Christophe Aguiton.
C'est sûr qu'il y a une évolution. Les syndicats sont toujours là, et heureusement, hein, ils ont joué un rôle très important pendant ces mobilisations. Mais il y a depuis plusieurs années, voire une vingtaine d'années, l'apparition de nouvelles formes d'organisation, de nouvelles formes d'engagement militant, qui sont souvent plus ponctuelles, ces formes d'engagement, et qui sont souvent marquées par des mobilisations qui peuvent être, en effet, plus festives, plus travaillées dans la mise en scène de leurs actions. Hein, bon, on l'avait vu sur les mouvements de chômeurs, sur les mouvements de précaires, des mouvements sur le logement, comme droit au logement, qui sont souvent des mobilisations qui touche au début assez peu de personnes, mais qui en général et presque toujours pointent des grandes questions de société. Je pense au mal logement dans notre pays. Et ces formes d'action-là ont quand même aidé à la transformation de la société française et à la prise en compte d'une série de questions qui étaient un peu mises sous la table parce qu'on n'en parlait pas beaucoup ces derniers temps.
Oui, avec enfin à la nuance près que a priori ces associations n'ont pas le pouvoir de négocier avec la direction d'une entreprise.
Elles ont les moyens après cela de faire entendre des causes et de faire changer la législation. Prenez par exemple la question du logement. Le fait que quelqu'un qui n'a pas réussi à avoir un logement social puisse s'opposer à l'État ou à la municipalité en allant en justice pour exiger un logement, c'est quelque chose qui aujourd'hui est difficile à mettre en œuvre parce qu'il y a un stock de logements qui est encore faible, mais qui est un droit nouveau. Et ce droit nouveau a été permis grâce à l'action d'associations comme DAL, droit au logement, ou des actions ou des organisations ou des mouvements similaires.
Un droit, certes, mais pour l'instant peu appliqué si on croit
mais
les communiqués de presse nombreux qu'on reçoit
qu'on puisse appuyer
du DAL concernant cette fameuse loi. Lilian Mathieu, vous vouliez intervenir?
Oui, pour dire que je ne pense pas qu'il faille opposer la forme syndicale et ces nouveaux mouvements plus réduits, plus activistes également. Je pense que les deux se complètent très bien. Les nouveaux mouvements, ces petits groupes très activistes font émerger des causes, les rendent publics, parviennent à sensibiliser l'opinion publique. Dans le même temps, les syndicats sont toujours présents. Ils sont là, présents notamment dans des instances paritaires. Ils ont des pouvoirs et des capacités d'action dont ne disposent pas ces petits groupes. Et si on regarde génération précaire, c'est que vous citiez, c'est quelques dizaines au maximum de personnes, à comparer des centaines de milliers d'adhérents de la CGT, on n'est pas dans la même catégorie. Il ne s'agit pas d'opposer donc l'un à l'autre, de dire que la primauté doit revenir aux grandes organisations qui sont là depuis plus d'un siècle, comme la CGT, et des groupes plus émergents, mais de montrer que les deux parviennent à bien fonctionner. J'en prendrai un exemple. Hein. On venait d'évoquer les formes d'action un peu spectaculaires qui parviennent à sensibiliser l'opinion publique. La CGT, notamment dans le secteur de l'énergie, a très bien su le faire lorsqu'elle a développé les actions Robin des Bois, c'est-à-dire les remises de courant dans des foyers qui n'avaient pas les moyens d'acquitter de leur facture EDF. Donc je pense que les deux peuvent très amplement se nourrir et se consolider l'un l'autre.
En tout cas, c'est nouveau.
Oui, à condition d'avoir une définition relativement large de la nouveauté, hein, des formes d'action qui misent sur le spectaculaire, sur l'humour, on retrouve ça dès les années 70. Hein.
Les féministes, par exemple, avaient inauguré au début des années 70, le MLF avait porté beaucoup ces formes d'action.
Il continue aujourd'hui. Absolument. Avec notamment le collectif La Barbe qui va à l'Assemblée nationale avec des barbes postiches pour pointer du doigt le fait qu'il y a une femme sur cinq qui est députée aujourd'hui. Alors est-ce que c'est une autre forme de lutte sociale? La compagnie de théâtre Joli Môme proposait jusqu'au 19 décembre une pièce de théâtre intitulée Inflammable. C'est l'histoire d'un plan social dans une usine et la compagnie a recruté pour cette pièce de théâtre l'un des ouvriers des Conti qui s'appelle Xavier Mathieu.
Quand on est arrivé près d'eux, les gros bras déménageaient déjà à l'atelier 3. Le chef de production se tenait un peu à l'écart avec le directeur adjoint des expéditions et l'autre tronche de cake qui nous parlait de réalisme économique la dernière fois. Pendant que Nabil a pris le passage souterrain, je suis monté sur le toit du local autorond de câble. Ces abrutis ont ricané quand ils m'ont vu, mais quand je leur annonçais au mégaphone ce qu'on allait faire, s'ils dégageaient pas tout de suite.
Ça fait quel effet de passer du statut de ouvrier syndicaliste à celui d'acteur?
J'ai pas l'impression d'être passé. Je suis toujours ouvrier syndicaliste. Ouais, parce que le conflit des Conti n'est pas terminé encore. Il y a encore 15 mois de congé de conversion et... Il y a beaucoup de problèmes avec les reclassements chez nous, donc C'est j'ai la possibilité de faire un stage, d'apprendre le truc.
Alors c'est un stage justement, comment ça se passe votre...
Bah, je suis en congé.
Vous êtes payé pour cette pièce?
Non, enfin non, je suis payé par Continental, donc je suis en convention de déplacement, c'est-à-dire je suis prêté en gros par Continental pour faire un stage à Jolimont. C'est magnifique de te lever le matin pour aller faire quelque chose qui te plaît, c'est... j'ai pas connu ça pendant 23 ans quoi.
Ce qui est particulier dans cette pièce, c'est que votre rôle ressemble beaucoup à... vous ressemble beaucoup quand même.
C'est quand même vachement plus radical que ce qu'on a pu faire chez Conti quand même.
On séquestre le sous-préfet au lieu d'aller abîmer la sous-préfecture. Voilà.
On n'a pas fait, bon, on y a pensé, hein, mais voilà, mais le rôle par lui-même, il ressemble. Oui, c'est des gens qui lèvent la tête, qui vont au combat. Dans cette pièce, il y a un dépôt de bilan, il n'y a plus de patron de boîte en face. Nous, on avait encore la possibilité de négocier quelque chose.
Vous vous posez sans arrêt cette question de l'utilité de ce que vous faites?
Oui et non, je ne me suis jamais vraiment posé la question de savoir si c'était utile que je me lève le matin pour aller faire des pneus. Donc je ne me pose pas plus la question de savoir si c'est utile que je fasse du théâtre. Je pense que les gens viennent pour se divertir, ils viennent pas pour recevoir un message, les gens qui sont ici. On ne fait pas la révolution dans un théâtre.
Hein. Vraiment, viens voir. Ils sont en train de charger ta machine et la mienne dans un camion. Et la sertisseuse électronique sur laquelle Ahmed travaillait. Ils vont plus vite que je n'aurais cru.
Alors, la pièce que vous mettez en scène, est-ce que c'est avant tout du théâtre ou est-ce que c'est du militantisme?
C'est du théâtre.
Ce qui m'a frappé dans la pièce, c'est que les personnages, les ouvriers, sont pleins de nuances, pleins de complexité. Les seuls personnages que j'ai trouvés un peu caricaturaux, ce serait le sous-préfet et la représentante de la direction du travail. Donc les seuls personnages qui pourraient avoir un point de vue différent de ceux des ouvriers.
Nous sommes complètement manichéens. On a choisi notre côté de la barricade, il n'y a pas de problème. Nos ennemis sont effectivement les puissants, ceux qui dominent, ceux qui exploitent, ceux qui oppriment, voilà. Et donc, de l'autre côté, bah, on a plaisir à les caricaturer, voilà.
Est-ce que vous avez l'impression que parmi le public de vos spectacles, il y a la moindre personne qui a besoin d'être convaincue par votre propos?
Non, absolument pas. On n'est pas là pour convaincre. On est là pour encourager. Parce que, bah, là, on sort quand même d'une défaite, hein, sur les retraites, hein, par exemple.
Alors, le combat des Conti, ça a été utile au final?
Ah bah de se battre, oui, ça sert toujours. Hein. Si on se bat pas, on n'obtient rien ou il y a des choses qu'on a peut-être mal fait, j'en sais rien. Mais on a fait le maximum, on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait obtenir. Vous savez, j'ai reçu beaucoup de reproches au niveau des confédés en disant que les Conti sont battus pour le fric et pas pour sauver leur boîte. Moi, ça me fait doucement rire parce que entre les indemnités qu'on a reçues, le congé de conversion et le chômage, les Conti aujourd'hui ont la garantie d'avoir un salaire pendant les 6 ou 7 prochaines années. Il y a même beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui qui n'ont même pas cette garantie. Alors bien sûr, on n'a pas empêché la boîte de fermer, mais après, s'il faut, tu ne peux pas empêcher une boîte privée de fermer s'il a envie.
Voilà un reportage de Dorothée Barba auprès de la compagnie Joli Môme, qui jouera d'ailleurs un spectacle à partir du mois de mars, cette fois consacré à la commune de Paris, un spectacle qui s'appellera Barricade. Il y a dans ce reportage l'idée du dominant dominer les puissants d'un côté et les faibles de l'autre. Mais j'ai la sensation qu'on est en train de changer de paradigme, non ? Christophe Aguiton.
Non, ce qui est sûr, c'est que l'idée d'un petit groupe de dominés qui doit résister contre tout le monde, face au vent,
côté village gaulois,
voilà, n'existe plus sous ces formes-là. Ce qu'on a pu voir, en effet, dans ces manifestations-là, c'est le nombre, c'est le soutien de l'opinion publique, et puis l'entrée dans la mobilisation de secteurs qu'on voyait moins. Je pense au secteur du privé, hein, qui était moins présent en 95 ou en 2003, et puis aussi les couches moyennes, tous ceux qui, a priori, sont pas ceux qu'on voit le plus souvent
et
dans
ça,
la rue.
Ça, c'est la vraie nouveauté, c'est-à-dire que les classes moyennes qui commencent à manifester.
Je crois que c'est une nouveauté qui,
c'est un tournant,
qui renvoie, oui, à deux éléments. Il y en a un qui est assez long, qui a une vingtaine d'années. C'est le fait que depuis la mondialisation, on a une sorte d'insécurité sociale et de peur pour l'avenir. On a l'impression que nos enfants vont vivre plus mal que nous et que nous allons vivre nous-mêmes plus mal que nos parents. Donc, et puis la peur de, à la fois du chômage, de la précarité, de la difficulté dans l'entreprise, hein, l'individualisation des conditions de travail, des tas de choses qui pèsent beaucoup sur tout le monde, hein, y compris les classes moyennes. Mais ce qui a transformé aussi beaucoup les choses, et là c'est tout récent, c'est la crise économique de 2008, c'est le fait que l'injustice sur les questions d'égalité sociale et sur les questions de salaire est perçue de façon beaucoup plus forte, tout simplement parce qu'on sait qu'on va devoir payer plus demain. Et que tout le discours qui était celui de Sarkozy et d'une partie de la droite, qui était l'idée, eh ben, libérons le travail, travaillons plus pour gagner plus. Toute cette idée-là qui était un peu le pastel d'Alouette, hein, l'ouvrier pouvait gagner 100 euros, les classes moyennes 1000 euros et les Bettencourt des dizaines de millions, hein, dans ce système. Aujourd'hui, on sait tous qu'il va falloir payer pour la protection sociale, que les impôts d'une certaine façon commencent déjà à augmenter. Hein, il y a 11 milliards sur la niche fiscale qui seront au menu, si on peut dire, de l'impôt 2011. C'est une augmentation d'impôts. Et ce qui est insupportable pour les classes moyennes, c'est de voir qu'elles vont payer, alors que les plus riches, eux, ne vont pas pas payer.
Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de monde dans la rue.
Ah, je suis sûr que c'est un moteur très important qui explique l'entrée des classes moyennes. C'est le cumul de ce sentiment d'insécurité et ce sentiment d'injustice flagrant face aux riches et aux puissants qui, eux, font ce qu'ils veulent et qui s'exonèrent d'une certaine façon de cette solidarité nationale.
C'est ce que nous dit Thierry qui nous appelle de Livilliers. La cause majeure des révoltes est de plus en plus visible. L'absence de respect des dirigeants, les sujets de plus en plus précis, injustice flagrante, écart monstrueux de revenus des patrons, parachute dorée, dividendes pour payer les licenciements aux actionnaires, etc. etc. Mais est-ce que du coup on n'est pas en train d'avoir d'un côté le monde salarié qui lui manifeste et de l'autre côté le monde financier?
C'est un peu ça, hein. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui le retour un peu des 200 familles, c'est-à-dire qu'on a eu l'impression à un moment donné que ceux qui luttaient étaient vraiment les précaires, les pauvres, ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on a une société entière qui n'en peut plus, hein, qui n'en peut plus, et les sondages le montrent, mais la mobilisation de septembre l'a montré également.
On a Erwan au téléphone. Erwan, vous nous appelez de Brest, bonjour.
Oui, bonjour Thomas.
Vous vous posez la question de la lutte, certes, enfin de la manifestation, mais est-ce que il y a d'autres types possibles, d'autres formes possibles de lutte que la manifestation? C'est bien ça, et notamment, vous pensez aux élections?
Bah en fait, moi je suis plutôt à penser que la prolétariat conscient de sa condition d'existence, comme disait un certain Barbu, qui n'a jamais inventé le concept de lutte de classe, mais qui existerait bien réellement, on a l'impression que de plus en plus dans les mouvements et dans les manifs, même dans les discussions, que les gens disent bah il faut attendre 2012, il faut attendre le vote de la prochaine présidentielle. Sauf que parti comme c'est, comme disait M. Guiton, la crise de 2008, moi j'ai peur que la classe moyenne fasse la même chose qu'en 2002, c'est-à-dire un vote réflexe, à défaut d'avoir une véritable gauche qui remette en cause, comme ce qu'on disait depuis le début, le pouvoir de dominer l'autre. Je pense que le capitalisme est aussi tyrannique qu'une monarchie absolue, et on le voit aujourd'hui. Ce qu'il y a de positif là, avec la lutte sur les retraites, si vous permettez, c'est qu'on le voit de plus en plus dans les pays européens. On reprend des slogans français comme « Tous ensemble, grève générale », que ce soit en Grande-Bretagne ou dans les pays où il n'y a pas eu de tradition ouvrière. Moi, je suis...
Il n'y a pas de tradition de grève, en tout cas. Il y a une tradition ouvrière en Grande-Bretagne, mais Margaret Thatcher a fait le ménage.
Ouais, monsieur, si vous permettez, moi, ce qui me dérange un peu, c'est quand même le comportement de la majorité de la population. Comme le disait le camarade de la CGT, bon, ils ont fait les manifs le samedi, sauf que le samedi, les gens sont plus préoccupés à faire autre chose le samedi. Ils envoient leurs enfants dans les clubs sportifs.
Ah, c'est quand même leur droit le plus absolu,
oui,
non?
Ouais, tout à fait. Non, je remets pas en cause leur activité, mais c'est justement toute cette ambiance de la société du 21e siècle qui est intéressante à étudier. Enfin, moi, personnellement, je suis en train de regarder pour me reconvertir comme sociologue, parce qu'en tant qu'ouvrier, je vous dis, et travailleur précaire, il y en a franchement ras-le-bol du travail ou bien de chercher du boulot. La question du travail par rapport dans la société et par mettre au goût du jour. C'est quand même dingue qu'aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui ont le SMIC, mais même pas les moyens de pouvoir se loger, de pouvoir se nourrir, pouvoir boire. Alors, les éléments vitaux pour vivre dignement dans une société, on a l'impression d'être des sous-hommes. Enfin, excusez-moi d'utiliser ces termes-là, mais enfin, maintenant, après le degré de révolte, moi, je m'intéresse beaucoup, mais c'est sur les directions syndicales, sur certaines directions syndicales quand on a au degré de mobilisation. À un moment donné, on a vu que certains étaient contre, justement, le fait qu'il y ait des grèves et proposer des référendums. C'est complètement...
Merci Erwan, on vous a perdu, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, on sent bien que dans votre discours, il y a aussi cette idée que aujourd'hui, il y a des choses qui inquiètent. Il y a la paupérisation galopante qui fait peur, et c'est ce qui pousse finalement les gens à sortir dans la rue. Peut-être Victor, vous qui êtes jeune et pas encore rentré dans le marché du travail, vous avez cette crainte là déjà?
Il y a totalement cette crainte. Je pense que c'est aussi ce qui fait que les jeunes sortent eux aussi de plus en plus dans la rue. On en parlait tout à l'heure. Il y a eu la crise. On a d'abord parlé de la crise, on n'a pas vu les effets directement, on commence réellement à les subir maintenant, d'une part par les réformes qui sont faites, d'autre part parce qu'il y a une paupérisation de l'ensemble de la société et qui se ressent, et parce qu'il y a une réelle crainte, et même une réalité. On a entendu le gouvernement dire les jeunes ont peur pour leur avenir, mais c'est une réalité. Nos perspectives d'avenir, on ne les a pas. Les salaires derrière, la sécurité d'emploi derrière, on l'a de moins en moins. On va être la première génération à avoir plus de mal à vivre et à s'en sortir que celle de nos parents.
Enfin, rien n'est joué encore.
Comment ?
Rien n'est joué encore. Vous partez sur le terrain pessimiste, là.
On part sur le terrain pessimiste, mais c'est des choses qui ont été montrées. C'est quelque chose à quoi on s'attend. Donc forcément, il y a aussi des réelles craintes, des réalités qui sont ressenties par les jeunes. Une difficulté de voir comment on va pouvoir se tracer un chemin sur le marché de l'emploi, sur tout ce qu'on va faire dans notre vie. Et forcément, ça alerte et ça nous fait rejoindre dans la rue, les salariés, comme on l'a vu pendant le mouvement contre la réforme des retraites.
Lilian Mathieu, au téléphone, vous vouliez intervenir. Je rappelle juste, vous êtes sociologue.
Oui, juste pour compléter, c'est pas anodin que la mobilisation elle se soit cristallisée sur cette réforme des retraites et que les jeunes se soient sentis très concernés par quelque chose qui pouvait apparaître comme un peu lointain. Hein. Ils n'ont pas commencé leur carrière professionnelle, ils s'occupent déjà de leur retraite. Mais c'est que c'est la question du nombre d'années...
Beaucoup de jeunes travaillent aussi. Hein. On dit souvent que les jeunes ne connaissent rien au monde du travail. Il y en a de plus en plus qui sont salariés et qui payent leurs études.
Alors ça, tout à fait. Hein. C'est-à-dire le nombre d'étudiants salariés...
Et certains sont au chômage, ajoute...
Un quart.
Un quart, ajoute Éric Aubin. Pardon, je vous ai coupé, Lilian Mathieu.
Non, mais vous aviez tout à fait raison d'apporter ce complément, mais... ce que je veux dire, c'est que les jeunes qui rentrent sur le marché du travail savent, pour la plupart, qu'ils vont avoir une carrière professionnelle avec des trous, c'est-à-dire avec des périodes plus ou moins longues de chômage, et que quand on va faire le total des années de travail, ça va retarder encore plus le moment où ils vont pouvoir bénéficier d'une retraite pleine et entière. L'autre chose qui thématique qui a émergé au cours du mouvement et justement contre cet argument de l'allongement de l'espérance de vie, c'est que l'on sait maintenant que pour des métiers extrêmement pénibles et difficiles, l'âge auquel on arrive à la retraite, c'est un âge où on est déjà en très mauvaise santé et on n'aura pas les moyens de profiter pleinement de sa retraite. Hein. D'où le sentiment d'être totalement floué dans cette réforme et qui explique que la mobilisation ait été aussi ample et spécialement chez les jeunes.
Mais on parler de cette nouvelle lutte, alors qu'il n'y a plus une lutte des classes, mais une lutte entre un monde salarié et un monde financier. Mais là, du coup, le monde financier, c'est quelque chose de très complexe, de très mouvant. Le monde salarié aussi. On voit bien qu'il n'y a absolument aucun rapport entre un jeune artisan et puis un cheminot dans sa façon de penser, dans sa façon de travailler. Donc, est-ce qu'il y a quand même des amalgames qui peuvent se faire pour qu'il y ait toujours un million qui descendront dans la rue lors des prochaines manifestations?
Oui, mais il y a des effets quand même qui sont notoires dans la dernière période. C'est que ce qu'a montré le mouvement, c'est que de plus en plus de salariés vivent mal à leur travail, souffrent au travail. Un tiers d'entre eux le disent dans les sondages. Et le problème auquel on est confronté, c'est qu'on nous propose finalement des réponses qui fait qu'on essaye de régler par catégorie les problèmes. On nous propose aujourd'hui une négociation sur l'emploi des jeunes. Je m'excuse, mais pour la CGT, la question de l'emploi, elle n'est pas que pour les jeunes. Il y a un quart des jeunes qui sont certes au chômage, mais la question de l'emploi, elle se pose aussi pour les seniors que l'on sort des entreprises avant qu'ils atteignent l'âge de la retraite. C'est d'ailleurs le cas des métiers pénibles, hein, 58 ans, tous ces salariés-là sont au chômage ou en maladie. Ils sont renvoyés dans les systèmes sociaux. Mais la grande difficulté aujourd'hui, c'est pour les 30-50 ans, et d'ailleurs qui se manifestent grandement, c'est que on veut garder la première place en termes de productivité horaire dans notre pays, la première place mondiale. Et ça a un coût extrêmement important du point de vue des conditions de travail. Et donc, à force de focaliser l'emploi sur les 30-50 ans, on a effectivement une jeunesse qui est au chômage, des seniors qui sont éjectés des entreprises, hein, c'est le terme. Et donc, à un moment donné, il va falloir qu'on traite la question de l'emploi dans sa globalité et qu'on arrête d'essayer de régler les choses les unes après les autres.
Christophe Aguiton, je voulais vous demander peut-être pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, mais après les retraites, à votre avis, est-ce qu'il y aura un thème fédérateur demain?
Alors, on va voir, mais c'est sûr qu'il y a des questions sociales qui sont aujourd'hui très importantes. La question de l'emploi, la question des salaires, hein, la question des revenus en général.
Ça, c'est pas nouveau.
C'est pas nouveau, mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont vraiment au cœur des préoccupations des salariés et pas que des salariés. Parce que quand je dis salaire et revenus, c'est quand on parle, par exemple, de la retraite. On a eu une période, ces 10 dernières années, dans laquelle les retraités étaient plutôt des gens qui avaient des conditions de vie, je dis pas pour toutes les personnes, mais qui étaient quand même plutôt favorables. On sait aujourd'hui que ça, c'est terminé, hein, puisque l'effet de toutes ces réformes, c'est de diminuer le niveau des pensions. Et donc, on va avoir des retraités pauvres qui vont malheureusement être de plus en plus nombreux.
Et dans la rue aussi. Donc, du coup, merci à tous les quatre d'avoir participé à Service Public ce matin. Service Public, c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci à Gabriel Oliveira, Guyon, Julie Verne, qui m'ont aidé à préparer cette émission, Éric Lancien à la réalisation, Jean-Michel Montu à la programmation musicale, à la technique ce matin, c'était Stéphane Poitevin et Vincent Godard. Demain, c'est le grand retour d'Isabelle Giordano pour une émission en partenariat avec l'UFC Que Choisir. Après les infos, le révolutionnaire Stéphane Bern pour le Fou du Roi. Mais il est 11h sur France Inter.